Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner dans les moments difficiles.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. La sexualité évolue au fil de la vie. Elle commence très tôt, hein, même avant l'enfance. Les années passant, les questions associées à l'amour, au corps, à la sensualité et au désir vont changer. Apprentissage, confirmation, curiosité, expérience, des étapes, des découvertes, avec des questions qui peuvent donc concerner toutes ces périodes de la vie. Par exemple, les questions des enfants sur la sexualité et comment leur répondre, les changements du corps à la période de la puberté et l'éveil de la sexualité, la fertilité, l'amour quand on souhaite un bébé ou la contraception quand on ne le souhaite pas, la grossesse et après, certaines difficultés aussi en cas de maladie de l'un des partenaires, la ménopause, l'andropause. Et l'avancée en âge, qu'est-ce que cela peut changer en termes de sexualité? Le docteur Catherine Solano est bien sûr à votre écoute pendant 50 minutes pour vous conseiller, expliquer, comprendre pendant toute l'émission. Vous avez la parole au 33 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Catherine Solano, sexologue. Docteur Solano, bonjour.
Bonjour Caroline Paré, bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Alors, on va parler de la découverte, du désir, de l'épanouissement, bref, tous ces projets que l'on peut faire à deux. Mais aujourd'hui, 1er décembre, on pense aussi santé et protection. Comme nous parlons de tous les âges de la vie, eh bien, il faut toujours et encore rappeler que se protéger des infections sexuellement transmissibles et en particulier du VIH-SIDA, puisque c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le SIDA, eh bien, pour cela, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge ni pour se protéger, ni pour la prévention.
Ah oui, je suis d'accord avec vous Caroline, parce que vraiment souvent on dit que les personnes plus âgées, les jeunes pensent à se protéger et les personnes de 40-50 ans, oh, n'y pensent plus. Et d'ailleurs les médecins pensent moins à détecter le VIH-SIDA chez des personnes de cet âge-là, alors que ça se transmet tout autant que chez les jeunes. C'est important tout au long de la vie.
En fait. Il peut y avoir des découvertes de sérologie positive à tous les âges.
À tous les âges, à 50-60 ans, ça arrive encore. Et des fois, on tarde à les dépister parce qu'on n'y pense pas forcément.
Ça veut dire protection et dépistage.
Protection systématique et dépistage, oui.
Voilà, docteur Solano, bien sûr, on va échanger en direct avec les auditeurs aujourd'hui. Mais tout de suite, ce sera l'interview ping-pong, notre rendez-vous. Interview ping-pong d'Assetou Samaki.
Bonjour, je m'appelle Simonie et j'ai 54 ans.
Sayouba, j'ai 67 ans.
Pour vous, la sexualité, qu'est-ce que c'est? Surtout à vos âges.
En fait, il n'y a pas de césure entre on a 50 ans ou on n'a pas 50 ans, non. Mais seulement, il y a un changement physique. Le corps vous impose de ne pas être pressé. On est en compétition avec personne. On n'a rien à prouver à qui que ce soit.
Alors, la différence pour une femme, ce n'est pas pareil autant qu'un homme. On est plus indépendante, on est plus femme, pour moi.
Parce qu'à 20 ans, vous ne vous sentiez pas femme?
C'est moi. À mon âge, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus femme, beaucoup plus sûre. Et je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas, surtout. Savoir, voilà, si je drague un homme, je sais que j'ai le pouvoir de le draguer et qu'il pourra venir dans mon lit, mais je n'en veux pas qu'il y reste.
C'est plus simple maintenant de s'exprimer dans l'amour, dans la sexualité qu'à 20 ans?
Littéralement. Parce qu'on dit ce qu'on veut. Quand on a 20 ans, on est à peu près soumise au plaisir de l'homme. Pour une femme comme nous, je veux dire qu'on est plus libre d'assumer ce qu'on veut. Par contre, c'est pas sûr que je plaise un homme par rapport à mes goûts, sexuellement parlant.
Est-ce que Simonie, vous êtes déjà tombée sur des hommes qui avaient des blocages ou pas? Parce que c'est pas toujours simple de savoir qu'il y a un blocage. Il y a des hommes qui ne veulent rien dire. C'est leur fierté, leur ego.
Mais ça n'empêche pas que la femme le sait.
La femme, elle ne sait pas, elle le sent. Elle va sentir que l'homme, il y a quelque chose qui le dérange.
Oui.
Donc, par ce moment-là, donc, elle va essayer de trouver un moyen de savoir pourquoi il est comme ça. Qu'est-ce qui le pousse à être comme ça? Alors que l'homme, il n'essaye pas.
Non, c'est pas qu'on n'essaye pas. On a peur d'essayer. On ne sait pas ce qu'on peut essayer.
Je voudrais terminer sur une chose.
Dites.
La communication au fil de la vie à tous les âges, est-ce que c'est important ou pas pour vous?
Ben évidemment. Si on ne se parle pas, moi, je ne sais pas comment on fait.
Bien sûr.
Parce que elle, autant elle, elle a des charges psychologiques de son passé, de son vécu que moi, je ne connais pas.
C'est ça.
Autant moi, j'ai des choses qu'elle ne peut pas deviner. Et si on ne prend pas le temps de l'explication, je ne vois pas comment on peut s'en sortir.
On est d'accord.
Ce n'est pas possible.
Non.
Seulement, à partir d'un certain âge, comme j'ai dit, on n'est plus en compétition avec qui que ce soit. On s'engueule, c'est vrai, mais l'engueulade est plus complice. Quand elle est énervée, qu'elle dit quelque chose, après je réfléchis à
tout
ce
à
qu'elle
fait.
M'a dit.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Là, oui, je suis d'accord avec toi.
Et finalement, à cet âge-là, maintenant, vous êtes beaucoup plus heureux qu'avant ?
Oui, moi perso, oui.
Ah ben alors là, je suis, moi, c'est, je suis zen, je suis zen, quoi.
Docteur Solano, très très attentive à ce ping-pong signé assez tout samaqué. Parcours de vie, expérience, parcours de sexualité. On a entendu, la liberté vient avec l'âge.
Oui, et puis l'épanouissement. Et je dirais, ça se produit quand on évolue bien, parce que tout le monde n'évolue pas bien. Mais je dirais que tout le monde doit chercher à aller de mieux en mieux sur tous les plans, pas que sexuels d'ailleurs. Et là, on entendait quand même une bonne communication. C'est extrêmement important, c'est vrai, parce que il y a des couples qui... Bah, par exemple, cette semaine, j'ai vu une dame, elle s'est séparée de son mari parce qu'en fait, elle a subi un viol. Alors qu'elle était mariée, elle ne lui a pas dit. Donc, elle me dit, je ne voulais plus qu'il me touche. Et il s'est dit, ben, elle ne m'aime plus. Et en fait, elle lui a dit seulement après qu'ils soient séparés. Je me dis, c'est quand même pas possible de ne pas communiquer. C'est trop dommage, quoi.
Alors que là, on entend avec les années, finalement, on comprend ce qui nous correspond. On comprend ce dont on a envie. Et peut-être surtout, d'abord, ce dont on n'a plus du tout envie.
Oui, tout à fait. On arrive mieux à s'affirmer quand on prend confiance en soi. Et ça, ça vient aussi de l'autre qui vous donne confiance quand on est dans un couple qui fonctionne bien. L'autre vous aide à prendre confiance en vous.
Et tout de suite, on va retrouver les questions des auditeurs en direct.
Priorité santé sur RFI.
Et c'est à Kinshasa que nous partons tout d'abord, la République démocratique du Congo, avec en ligne avec nous Michel. Michel, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes marié, vous êtes en couple, vous avez des enfants et aujourd'hui, on va dire que c'est plutôt compliqué avec votre époux. Expliquez-nous pourquoi.
Alors j'ai 13 ans de mariage, je peux dire nous avons 13 ans de mariage. Mais du coup, 5 ans étaient les années aux anges, quoi. C'était bien pour moi parce que j'ai appris le mariage et tout. Alors après, les 8 ans après, c'est devenu un cauchemar. C'est devenu difficile à vivre, quoi, sexuellement parlant.
Vous parlez d'une sorte de cassure. Il s'est passé quelque chose au bout de ces 5 années? Il y a eu quoi? Une naissance, une rencontre, une dispute, une crise de couple?
En fait, être marié devient du coup difficile, surtout une femme qui essaie d'émerger professionnellement, ça devient difficile en Afrique parce que la plupart des Africains pensent que la femme, c'est la cuisine. Et du coup, lorsque moi, j'avais mes ambitions de grandir et foncer avec ma carrière et tout, ça devient difficile à supporter les hommes à mes côtés.
Parce que vous vous êtes en quelque sorte émancipé professionnellement, vous êtes épanoui au niveau de votre activité en dehors de la maison, c'est ça?
Exact, exact.
Et il vous faisait des remarques là-dessus, il vous faisait des critiques ou simplement c'était le silence et la vexation?
Non mais ça devenait surveiller mon téléphone et voilà, vérifier mes messages... Si il y a peut-être une causerie autour de la journée, j'évoque les collègues hommes et tout ça, ça déjà du coup ça casse ses nerfs et c'était devenu un cauchemar pour moi.
Un cauchemar pour vous qui a eu des influences jusque dans l'intimité, c'est ça?
Bien sûr, c'est parce que maintenant je faisais un effort de les satisfaire, de ne pas voir. Peut-être que il avait l'intention du genre, si je pars au boulot, peut-être je pars découcher. Et si je reviens, je leur réfléchis le corps, cela veut dire qu'effectivement, ses pensées étaient positives. Et je faisais un effort de lui donner tout ce qu'il voulait. Alors, s'il voulait chaque jour le lit, je le faisais. Alors, j'ai compris que je m'y torturais. Et au final, il ne comprenait rien en termes de la sexualité.
Et vous lui avez parlé de ça, du fait qu'il vous surveillait, du fait qu'il avait cette jalousie maladive. Vous en avez parlé?
On en a parlé plus de 3 fois. Alors, je vous assure que j'y apprends seulement à vivre avec, parce que j'ai compris que c'est comme ça avec l'Afrique.
Vous êtes un petit peu désespérée de la situation, non ?
Très désespérée, parce que là, je ne le fais plus. Le grand problème, c'est que je ne le fais plus pour moi. Je le fais pour satisfaire quelqu'un. Et là, ça ne marche pas. Et vous savez très bien que ça ne marche pas.
Ce n'est pas en sens unique, évidemment, Michel. Donc, la grande question, c'est retrouver la confiance pour refaire l'amour agréablement, tout simplement. C'est une grande question, docteur Solano.
Ce que j'entends dans ce que vous dites, d'abord, je voudrais dire une chose, c'est qu'une femme travaille, d'accord, elle va rencontrer des hommes au travail, des collègues de travail, mais je fais un appel aux hommes qui sont comme son mari, si elle ne travaille pas, elle peut rencontrer des hommes dans la rue en allant faire ses courses. Ça n'a aucune... c'est juste que lui, il est jaloux. C'est le fond de sa personne qui est comme ça. C'est pas du tout le fait que vous travaillez. C'est possible que si vous ne travaillez pas, il serait exactement pareil.
La jalousie, elle est peut-être d'ailleurs à plusieurs niveaux. Au niveau non seulement des rencontres possibles, mais simplement que cette femme s'épanouisse et qu'elle réussisse.
Oui, c'est possible. Ça dénote que c'est un homme qui n'a pas confiance en lui. Il a peur que si vous croisez un autre homme, vous vous disiez il est bien mieux que mon mari. Et du coup, il se dit pas, cette femme, elle a de la chance d'avoir un homme aussi formidable que moi, voyez. Donc, il n'est pas tranquille. Et ce que je dirais, c'est que vous dites, j'aimerais que ça s'améliore, mais ça peut passer seulement par lui. Parce que quand quelqu'un, si vous voulez... Le corps, à un moment, il peut se bloquer parce que l'autre, on sent pas d'amour, en fait. On sent de la possessivité, plutôt, là, dans ce que vous décrivez. Parce qu'un homme qui aime sa femme, il va lui dire « Je suis heureux que tu réussisses, ça me fait plaisir, je suis fier de toi. » Il va pas dire « Tu vas rencontrer des hommes et tu vas me tromper. »
Vous imaginez quoi pour que ça change, Michel ? Faire appel à quelqu'un de l'extérieur pour lui parler ? Carrément faire une pause dans votre histoire ? Vous imaginez quoi ? Michel, vous êtes là ?
Oui, je suis là.
Vous imaginez quoi pour essayer de changer les choses ? Parce que quand on vous entend parler, on entend que vous avez envie que ça change. Donc, qu'est-ce que vous imaginez ?
Bien sûr que je veux vraiment que ça change. Mais comment ça peut changer ? C'est un peu difficile. Parce qu'à un moment donné, je vous assure que j'avais arrêté la profession pendant 2 ans. Pour que je puisse retrouver celui-là que j'avais eu au départ. Alors, cela n'a pas changé.
Cela n'a pas changé. Vous arrivez à dire stop, par exemple ? Vous dites, il va fouiller dans mon téléphone. Il y a des moments où finalement, vous révoltez ouvertement contre ce qu'il fait ou finalement, vous laissez faire ?
Bien sûr, il y avait même rupture, un tout petit peu une rupture à un moment donné, vu là, parce que moi, je suis du genre, je ne veux pas quelqu'un qui maltraite une femme. Alors, si elle a un bon cœur, en fait, elle n'a pas une mesure un peu exagérée sur le mariage. Pourquoi la suspecter à tout moment ? Moi, j'étais contre tout ça. Je lui disais carrément qu'il fallait être sûr de moi et avoir confiance, c'est tout ce qui importe. Parfois, dans la vie, il faut risquer. Pour avoir ce qu'on veut. Mais dans ma dignité, je travaille. Alors, j'ai trouvé que c'est la façon dont il raisonne. C'est difficile. Il a demandé pardon, bien sûr. Il a passé à autre chose. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a une dose exagérée de la jalousie. Et puis, il fouille le téléphone et tout. Voilà.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est au courant autour de vous ? Des amis qui en ont parlé avec lui ? Est-ce que vous avez des amis communs qui pourraient servir d'intermédiaire ?
Bien sûr, j'en ai parlé à l'un de ses amis qui l'a conseillé, il a compris. Mais je ne sais pas si c'est une obsession. Est-ce que je me posais la question, est-ce que je suis aussi assez belle que ça ? Est-ce que je ne sais pas trop, c'est une obsession ou quoi ? Jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il a été conseillé, il a demandé pardon, il a dit il ne fera plus ça. Il est allé loin, je vous assure, à m'enregistrer. En fait, placer un téléphone dans ma maison.
Attendez, je vous interromps parce que je me tourne vers le docteur Solano. Là, on est évidemment une émission sur la sexualité, mais là, on est dans quelque chose d'obsessionnel.
Oui, c'est de la jalousie pathologique. Ça s'appelle, c'est pas normal. Et donc, quand on a un problème comme ça, il faut se faire soigner, se faire aider mentalement, prendre confiance en soi, parce que c'est quelque chose d'anormal. Et je vais vous dire une chose, votre corps n'a pas de désir pour lui, vous ne ressentez pas de plaisir, parce que c'est comme si votre corps vous disait, mais laisse tomber, cet homme, il ne t'aime pas vraiment, il ne va pas bien, et moi, je n'ai pas envie de faire l'amour avec un homme qui me traite comme ça.
Comme une chose, comme une possession. Mmh. En tout cas, c'est ce qu'on a bien entendu. On vous remercie beaucoup, hein, Michel, pour ce témoignage. Très, très bonne journée à Kinshasa. On va partir maintenant pour le Bénin. Douri Sikat nous a envoyé ce message sur le répondeur de Priorité Santé.
Bonjour, mon dédain de Priorité Santé. Bonjour, Caroline. Bonjour, docteur. Moi, c'est Arisekan depuis le Bénin. Je suis âgée de 38 ans. Tout a commencé depuis ma grossesse de 2019 jusqu'à nos jours. Je notifie qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans, 5 mois exactement que j'ai accouché. Donc jusqu'à nos jours, je n'ai plus vraiment envie de rapport sexuel. Et c'est toujours mon mari qui réclame les rapports sexuels. Et puis aussi, je notifie que j'ai perdu aussi le bébé 3 jours après sa naissance. Non, et j'ai eu aussi les suites de couches vraiment, vraiment difficiles. Un accouchement aussi vraiment difficile. Donc, 3 mois après mon accouchement, mon mari a demandé que nous reprenions des rapports sexuels. Mais je lui ai répondu que je n'avais pas envie. Mais il a dit que la petite vient à manger. Il est allé avec la douceur qu'il faut, mais toujours est-il que j'ai eu mal et je n'ai vraiment pas envie. Des rapports sexuels, c'est toujours lui qui réclame. Maintenant, ce que moi, j'aimerais savoir, comment je peux faire pour faire revenir l'envie sexuelle normalement, comme avant la grossesse. Voilà, c'est ça, parce que ce fut un vrai traumatisme pour moi. Merci.
Erisikat qui emploie le mot de traumatisme, il y a ce deuil, il y a les suites de couches extrêmement douloureuses et il y a finalement l'envie qui a disparu parce qu'elle est en train de vivre des choses extrêmement douloureuses.
Oui, ça fait de la peine, on entend dans sa voix qu'elle est peut-être même en dépression encore à cause de ça. Et donc, ce qu'on sait, ce qu'on observe en santé sexuelle, c'est que le décès d'un enfant, ça abîme souvent la sexualité, ça peut bloquer la sexualité, probablement parce que la naissance, c'est la vie, évidemment, et quand un enfant décède, notre élan de vie, il est bloqué. Et la sexualité, c'est l'élan de vie, c'est ça qui fait les bébés. Donc, moi, je vois très souvent ça quand une femme ou un homme a perdu un enfant ou un homme ou une femme a perdu un frère ou une sœur dans l'enfance, un enfant de 4, 5 ans ou 2 ans ou tout, à la naissance, déblocage sexuel. Et ça, donc, c'est un gros traumatisme.
Donc, c'est vrai que souvent, on a bien conscience qu'en matière de santé mentale, ce n'est pas évident de consulter, mais là, pour Risicat, c'est vraiment quelque chose qui serait tout à fait à conseiller.
Oui, parce qu'il faudrait en parler pour, de manière à évacuer tout ça et se dire, en fait, c'est le fait qu'on aime déjà cet enfant qui est mort, qu'on est tellement mal et que cet amour-là, enfin, des fois, je dis à mes patients, si ce petit enfant, il est quelque part, il vous dirait, mais vis ta vie, il faut pas que la mort l'emporte sur la vie, il faut recommencer à vivre et il faut retrouver la joie de vivre et c'est pas facile. Et c'est vrai que souvent, un deuil, il faut au moins 2 ans. Donc, c'est peut-être pas un hasard si Risika t'appelle le maintenant parce que ça fait un peu plus de 2 ans. Peut-être que c'est le signe que ça commence un petit peu à cicatriser parce qu'on a quand même des capacités de cicatriser émotionnellement les traumatismes, heureusement.
Voilà pour Risicat, bon courage donc à vous. On est maintenant avec une autre auditrice du Bénin, c'est Annette. Là encore, c'est un message sur le répondeur de l'émission.
Bonjour Priorité Santé, j'aimerais vous faire part de ma petite histoire. À l'époque, étant encore jeune étudiante, j'ai opté pour l'abstinence. Après l'obtention de mes diplômes, j'ai malheureusement été malade de la polyarthrite rhumatoïde. La maladie me rongeant, j'ai eu du mal à m'initier dans une relation. Et j'avoue que jusqu'à présent avec mon partenaire, je n'arrive pas à aller aux actes sexuels de peur qu'il me fasse du mal. Puisque j'avoue que dans mon quotidien, quand je fais des efforts physiques, j'ai énormément mal dans tout le corps et surtout dans les articulations. Aujourd'hui, je me tourne vers vous pour savoir si le fait d'aller à l'activité sexuelle aurait des impacts négatifs sur l'évolution de la maladie et ce qu'il faut faire s'il faut se laisser aller ou quelle attitude adopter. Merci.
Voilà une question d'Adnet. C'est vrai que tout à l'heure, quand on parlait de la sexualité au fil de la vie, vous aviez justement évoqué, anticipé par rapport à ce que ça peut faire d'avoir une maladie chronique et de vivre sa sexualité. C'est le cas pour Adnet, donc, qui a cette maladie rhumatismale, polyarthrite rhumatoïde. Il y a une question que peuvent se poser un certain nombre d'auditeurs. Est-ce qu'une sexualité avec ce genre de maladie, ça peut être un facteur aggravant ?
Alors déjà, je peux vous dire, j'ai beaucoup travaillé sur la polyarthrite rhumatoïde parce que j'ai participé à l'élaboration d'un questionnaire sur sexualité polyarthrite rhumatoïde qui s'appelle Calisex. Voyez
donc,
et donc, alors ce que je peux vous dire, non, ça n'aggrave pas du tout, absolument pas. Au contraire, ça fait plutôt du bien la sexualité parce que, si vous voulez, on sait que l'acte sexuel, il a tendance à être antidouleur parce que ça fait du bien, en fait, d'être pris dans les bras, le pot à pot, etc. Ce qu'on sait aussi, c'est que la vie sexuelle, la sexualité des personnes qui ont une polyarthrite rhumatoïde, elle n'est pas très différente de celle de la population générale. Les problèmes sont un petit peu les mêmes. Et je dirais, c'est vrai que quand on a une maladie rhumatisme, pas forcément une polyarthrite, arthrite rhumatoïde. D'ailleurs, il y a d'autres maladies, le rhumatisme psoriasique ou la spondylarthrite. On a des douleurs et il y a des positions qu'on ne va pas pouvoir faire parce que ça va faire mal. Évidemment, ce n'est pas le but dans la sexualité, mais il y a toujours des positions où on peut avoir des relations sexuelles sans douleur. Et il faut, je pense, en parler au partenaire, lui dire, tu sais, il y a des positions où j'ai mal. Et il faut vraiment dire quand on a mal parce que si on commence sa vie sexuelle en ayant mal, ça fait une empreinte et après, on n'ose plus recommencer. Je vais vous donner un exemple de position pratique. C'est la position qu'on appelle les petites cuillères. C'est-à-dire, la femme se met en chien de fusil, donc sur le côté, et l'homme se met derrière elle, s'emboîte, comme quand on range les petites cuillères de profil dans un tiroir. Voilà. Et c'est souvent une position où on n'a pas beaucoup d'efforts à faire, on n'a pas besoin d'écarter les jambes ou de tirer sur les articulations. Ça peut être une façon de commencer sa vie sexuelle. Mais donc, c'est vraiment possible d'avoir une vie sexuelle avec une polyarthrite.
Donc voilà, Annette qui doit être rassurée. Il y a une question Facebook de Mamie, qui est à Dakar, qui parle des personnes qui perdent leur virginité plutôt tard, avec des conséquences, des questions sur les conséquences pour la femme. Là aussi, question sur les douleurs. Question donc de Mamie, est-ce que les rapports seront plus douloureux pour une femme qui entame une sexualité tardive que pour les jeunes filles ?
Non, pas du tout. L'hymen, il va s'ouvrir au moment où on a le premier rapport sexuel, que ça soit tôt ou tard. Non, ça ne va pas changer, ça ne change rien du tout.
Voilà,
non,
la
non.
Réponse est simple et claire. On part maintenant pour le Congo. Pour Brazza, c'est Nupcia qui est avec nous. Nupcia, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez 32 ans, Nupcia, et vous, ce qui pose un petit peu problème dans votre couple, c'est que finalement, votre époux n'est pas très souvent à la maison, c'est ça ?
C'est ça.
Et alors, qu'est-ce que ça change ?
Ça change déjà beaucoup de choses, parce que quand j'ai envie de faire l'amour, il n'est pas là.
Donc, qu'est-ce que vous faites quand il n'est pas là et que vous avez envie de faire l'amour ?
Je reste, si j'ai envie, je reste comme ça jusqu'à ce que l'envie finisse, mais je lui en parle toujours.
Vous lui en parlez. Est-ce que vous avez des communications téléphoniques, justement, où vous pouvez exprimer votre désir ?
Exactement.
Et ça se passe bien ? Est-ce qu'il y a des échanges entre vous ou finalement, vous ne faites que vous asseoir sur votre désir en attendant la prochaine rencontre ? Non, mais c'est concret. J'essaye d'avoir des images. Moi, c'est un peu comme ça. Je puise dans mon vocabulaire le plus simple. Voilà. Donc, voyez. En tout cas, c'est imagé, je pense, hein, ce que j'ai dit, non ?
Oui. Parfois, je lui envoie des photos, on en parle, mais c'est souvent le travail qui bloque.
Est-ce que vous diriez qu'il y a une forme de frustration chez vous par rapport à ça ?
Beaucoup, beaucoup de frustration.
Et puis, il y a aussi les enfants qui sont venus. Là aussi, ça a pu changer des choses par rapport à votre rapport à la sexualité. Racontez-nous, si vous voulez bien, Nupcia.
Exact. Quand j'ai eu ma troisième fille, après 3 mois, j'avais tout envie de faire l'amour. Je ne comprenais pas. J'avais tout le temps envie et je ne savais pas quoi faire. Je ne sais pas si c'est normal ou si c'est anormal, ça je ne sais pas.
Et comment ça se traduisait ce yo-yo de la libido dans votre couple ? Est-ce que votre époux répondait à votre désir ou, là encore, est-ce que vous étiez un petit peu toute seule dans votre coin ?
J'étais toujours toute seule. Il ne peut pas être là quand j'ai envie qu'il soit là. Donc, c'était pas facile. Je peux pas me déplacer avec un bébé de 3 mois pour aller là où il travaille.
On comprend bien. Vous en parlez avec votre époux, justement, de cette frustration qu'on ressent un petit peu dans toutes les périodes de votre vie de couple ?
Exact. J'en parle et souvent, il fait quand même l'effort parfois d'arriver. J'en parle aujourd'hui, demain, il arrive. Donc, je menace même. Je lui menace même. Je dis, je peux pas quand même me laisser comme ça. Je n'arrive pas, je sais pas moi. Je ne peux pas rester comme ça. Donc, tu arrives et puis après, tu vas repartir.
Vous, en fait, ce manque de sexe, on va le dire clairement, ça vous rend malheureuse.
Oui.
Mais pour autant, vous n'avez pas d'amant. C'est ce que vous êtes aussi en train de nous dire.
Oui.
Voilà.
Bravo Caroline, parce qu'il y a tellement d'hommes qui disent « Ma femme, si je suis au loin, je me demande ce qu'elle va faire. » Ben non, vous voyez, elle vous attend justement.
Elle vous attend, mais elle est frustrée en même temps, docteur Solano. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Nupcia ?
Ce que je peux dire, c'est que... Est-ce que vous avez déjà vécu longtemps ensemble, plusieurs mois, je veux dire ?
Non. Déjà, voilà. C'est vrai que quand on s'est rencontré avec lui, il était toujours en déplacement. Mais on n'était pas encore mariés, donc tout le temps, il partait avec moi.
Parce que si vous voulez, ce qui se passe, c'est que quand on est séparé, on a beaucoup plus de désirs parce que quand on s'aime, évidemment, on attend l'autre, on a envie qu'il soit là. Et c'est possible que s'il était avec vous tout le temps, vous auriez encore du désir, mais pas aussi fort parce qu'il y aurait moins de manque. Parce que le manque, ça crée un désir très fort. Donc, est-ce que vous envisagez de vivre ensemble à un moment ou qu'il voyage beaucoup moins ou pas du tout ?
Non, c'est son travail là. En janvier, il va encore aller plus loin. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Parce que moi aussi, je travaille. Je peux aussi laisser mon travail.
Ah oui, c'est ça.
Et au niveau vous avez pensé, par exemple, à changer des choses dans vos relations au téléphone ou des choses comme ça, ou c'est un petit peu compliqué ?
Au téléphone, il n'y a pas de problème. On échange quand j'ai envie, quand il a envie, il me parle, on se parle, mais... c'est juste le téléphone, c'est pas sur place.
Situation difficile, Catherine.
Oui, je pense que ce qui vous manque, c'est pas seulement le sexe, entre guillemets, c'est aussi le contact. Vous voyez, par exemple, des couples qui sont mariés, souvent, ils font pas forcément l'amour tous les jours. Il y en a qui le font, mais pas forcément. Mais ils vont se faire un câlin, se prendre dans les bras.
La tendresse.
Et puis le peau à peau, où ils se font des sourires, etc. Et ce qui est très important, c'est ce que vous faites quand même, mais de le faire vraiment très souvent, c'est de communiquer par les moyens que vous avez, c'est-à-dire même vous écrire des lettres, vous téléphoner. Souvent de manière à garder ce contact là, parce que c'est quand même, on sent que c'est une très belle relation, parce qu'il vous manque, c'est parce que justement vous avez une belle relation, donc c'est un peu dommage. Et peut-être lui dire à long terme, on pourrait peut-être trouver une solution pour être plus ensemble aussi. Peut-être pas dans 1 mois, 2 mois, 1 an, mais peut-être dans même 2 ou 3 ans, trouver une solution pour
essayer de changer les choses.
Que c'est important, la vie de couple quand même.
Voilà, Nupcia, merci beaucoup pour votre appel. On va poursuivre notre échange avec les auditrices et les auditeurs. On va se retrouver juste après ce titre de Dmani avec Rock With Me. C'est dans Priorité Santé, c'est bien sûr sur RFI.
Dance for slim daddy. I'ma just dance here, dance here, dance here, dance here. Baby girl, let me see. I go scatter your body. I'ma dance on me, my honey, yeah. You better show me your dance moves if you want to rock with me, yeah. I'ma get great, you want to shut your funny NSC. We're gonna blame Khan, I should that will. When they go that you dance, I sick this a song I've spilled. And they go that you move for the nigga, I'ma think we'll feel. Bust it. Because that you went, girl, you got this. Shari khalas up the mosh pit. I'm a need you dance, girl, I love it. I'm a gay. I go show you. Ah, you can make I show you. Because that you dance, let me hold you tight. Let me shake it, I'm not gonna bite. Say, summer boy, it's fin tonight. So, if I don't stop, boy, so I'm at tonight.
Except that girl don't tell me twice. But this your fine body, you go dance, you dance, you dance, you dance, you dance for slim daddy. I'ma just dance, you dance, you dance, you dance, you baby girl, let me see. Go scatter your body, I'ma dance on me, my honey, yeah. You better show me your dance moves if you want to rock with me, me, yeah. I'm okay. I want you to go down low, I want you to go down slow, yeah, yeah, yeah. I want you to go down fast, I'ma get you not your lies, yeah, yeah, yeah. I want you to show me girl, dance can't girl with girls, yeah, yeah, yeah. I want you to show me love, girl can rock my world, yeah, yeah, yeah. Sex active in the night time, I say dance, I said, aye, aye, fully fire. I quit your bed down for it, I quit your bed down, she needs to be a liar, yeah, yeah. We up and they can fight down, shawty, get it calm, yeah. In the night when they got light down, this is your friend of the year.
Priorité santé sur RFI, le docteur Catherine Solano répond en direct à toutes les questions. Le thème du jour, c'est la sexualité au fil de la vie. Et maintenant, on repart pour la Guinée, pour Conakry, retrouver en ligne Lama Bank. Lama Bank, bonjour.
Bonjour madame, bonjour à vos millions d'auditeurs.
Alors, vous êtes mariée, ça fait 2 ans que vous êtes mariée, vous avez 26 ans. Et vous, ce que vous regrettez, Lama Bank, c'est finalement qu'on ne vous ait pas davantage expliqué les choses de la vie, la sexualité, parce que vous estimez que si vous aviez été mieux informé, eh bien peut-être que les choses se seraient passées autrement. En tout cas, aujourd'hui, comme vous avez un fils, c'est ça, vous aimeriez que les choses se passent bien. Qu'est-ce que vous attendez exactement?
Ok, bon, comme vous avez si bien dit, j'ai grandi comme ça sans avoir une éducation sexuelle. Bon, par là, nous, c'est quelque chose de tabou.
Oui.
Donc, je me demande maintenant comment former mes enfants. Les garçons, peut-être que je pourrais les parler sans avoir un complexe face à eux. Mais les filles, comment les éduquer? En tant qu'homme, comment éduquer une fille? En tant que femme, comment éduquer un garçon sexuellement? Parce que la maman peut avoir un temps avec les fils mieux que le papa. Surtout par là, en Afrique, c'est le mari qui travaille beaucoup mieux que le garçon, mieux que la femme. Donc nous sortons le matin, on rentre le soir. Il va falloir que la maman s'occupe bien des enfants et la maman éduque les enfants sexuellement, mais aussi avec d'autres éducations. Nous, en tant que garçon, en tant que mari, en tant qu'homme, qu'est-ce qu'on peut porter aux filles, aux jeunes filles d'aujourd'hui, afin qu'elles soient mieux préparées pour pouvoir affronter cela?
Et qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous pensez quand vous dites préparer une fille à affronter la sexualité? Qu'est-ce que vous entendez par là, Lama Bank?
Vous savez, si directement un garçon se retrouve avec une fille, il se trouve qu'elle n'est pas très bien préparée, donc c'est un peu compliqué. Il y a même des violences qui peuvent se passer dedans.
D'accord, je comprends bien. C'est pour que cette fille, elle arrive et que finalement, elle soit heureuse après sa relation sexuelle. Éventuellement, qu'elle sache dire non quand elle a envie de dire non et qu'elle dise oui et que tout se passe bien pour son corps et pour sa santé grâce à cette relation sexuelle. Donc, c'est vraiment, vous avez envie, si vous avez une fille, et c'est tout à fait normal pour un papa, qu'elle ait une vie épanouie et qu'elle puisse faire vraiment ce qu'elle désire au moment où elle tombera amoureuse, c'est ça?
Justement, qu'elle soit très bien préparée, qu'elle soit prête à affronter l'homme qu'elle va aimer surtout.
Quand vous dites affronter, qu'est-ce que ça veut dire affronter? Parce que quand on pense à l'amour, on ne pense pas forcément à affronter quelqu'un. On pense plutôt à partager. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, affronter?
Bon, les choses du foyer, ça peut être même la communication. Parce
d'accord.
que parfois, ici, par là, c'est très difficile de voir une femme parler correctement à son mari. Vous pouvez voir des femmes qui ont même le complexe d'appeler leur mari par leur nom. Ou d'appeler leur mari en public. Vous voyez cela? Donc, c'est
tout. Quand ça, je vous entends, vous, la Mabang, vous avez envie d'avoir des filles assez libres, hein, c'est ça?
J'ai beaucoup besoin de filles. Surtout si c'est des humaines, ça va beaucoup m'arranger.
Des filles libres. Alors, Lama Bank, un papa qui a envie d'avoir des filles qui prennent leur place dans la vie, dans la société, et dans le couple.
Et qui a un fils aussi,
et qui a un fils.
Un petit garçon. Je pense que pour les filles comme pour les garçons, il faut commencer à en parler très jeune. Bon, 6 mois, c'est vrai que c'est jeune parce qu'ils ne savent pas parler, mais dès 2, 3, 4 ans, quand on leur apprend à faire leur toilette, par exemple. Mmh. Déjà,
on ne parle pas forcément de la sexualité, on commence peut-être par parler du corps.
Par le corps, mmh. exactement. Et de leur dire, à partir de leur expliquer comment faire leur toilette, et puis de beaucoup respecter leur intimité. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne veulent plus que leurs parents les regardent quand ils sont tout nus à un certain âge. Leur dire, c'est normal, tu as le droit, c'est ton intimité. Et leur expliquer que personne n'a le droit de les toucher sans leur accord. Personne n'a le droit, les adultes n'ont pas le droit d'avoir de sexualité avec les enfants. Il y a toutes ces choses à expliquer dès qu'ils sont petits. Et après, j'allais dire, vous dites, qu'est-ce que je pourrais dire à ma fille, si j'en ai une un jour? Mais il faut voir que les mamans sont souvent beaucoup plus à l'aise pour expliquer des choses à leur fille. Ce n'est pas seulement qu'elles sont plus à l'aise, c'est qu'elles sont passées par là. Et de même, un papa qui est passé par l'adolescence, etc., il peut en parler à son fils. Et il faut en parler avant que l'adolescence soit là. Parce qu'au moment de l'adolescence, c'est un petit peu une crise hormonale. Et les enfants ne sont pas toujours faciles. Enfin, les adolescents ne sont pas faciles. C'est pas mal d'expliquer ça dès 10, 11, 12 ans, de dire à un garçon, bah, tu as des érections, tu vas avoir un jour ta première éjaculation, voilà comment ça se passe. Lui expliquer qu'il faut respecter les filles, lui expliquer aussi, chose que je trouve très importante, que la contraception, ça se fait à deux, que bien sûr d'utiliser les préservatifs, mais s'il y a une autre contraception, pilule, sérilette, tu accompagneras ta copine, ton ami ou ta fiancée chez le médecin ou au centre de planification, parce que ça te concerne aussi. Enfin, c'est en faire quelqu'un de responsable. Et ce que j'aime bien faire, moi, pour l'éducation des enfants, c'est prendre des exemples autour de vous. Vous dites, tu vois, eh ben, cette fille est tombée enceinte à 14 ans, eh bien, je ne voudrais pas que ça t'arrive. Si tu as un ami, il faut lui dire, moi, je veux qu'on fasse attention, je veux qu'on prenne ses précautions, je veux qu'on consulte, etc. Ou j'ai un copain à qui telle chose est arrivée, une fille s'est moquée de lui, ou j'en sais rien. Des exemples que vous voyez autour de vous, je trouve que ça aide énormément les enfants. Mais c'est vrai pour le tabac, pour la drogue, pour tout, hein, de donner des exemples vécus.
Alors voilà la Mabank pour ces conseils du docteur Catherine Solano. On vous souhaite une excellente journée à Conakry en Guinée. J'ai deux questions Facebook, docteur Solano. Mm-hmm. Il y a Soriba en région parisienne qui dit qu'à 70 ans, il n'a plus de désir sexuel. Il est marié depuis 1981. Il n'éprouve plus rien sexuellement pour sa femme, ni d'ailleurs pour celle qu'il pourrait croiser dans la rue. Et il se demande si c'est normal. Est-ce que c'est lié à l'âge?
Alors, peut-être que c'est lié à l'âge, parce qu'effectivement, avec l'âge, chez les hommes, la testostérone diminue. Donc, ça donne moins de désir sexuel. Et de toute façon, même chez les hommes qui ont du désir, ils disent le désir sexuel, il est moins pressant, moins fort. Je suis plus calme, je suis plus zen. Mais même s'il n'a pas envie, il peut avoir des rapports sexuels, parce qu'il suffit souvent de se mettre en condition, c'est-à-dire de se mettre tout nu l'un contre l'autre, de faire des massages, de mettre de la musique. Et puis, il va se dire, bah, peut-être que j'ai une envie moins forte, mais ça peut venir quand même. Ça se travaille parfois à un certain âge.
Alors, il y a une autre question. C'est Abdel de Marwa au Cameroun qui se demande pourquoi les hommes ont davantage recours à des médicaments comme le Viagra en prenant de l'âge. Et lui, Abdel, croit que les hommes et les femmes n'ont pas le même désir en vieillissant. Il pense que les femmes n'ont plus de libido avec la ménopause.
Alors que les hommes, oui. Ben justement, on vient de dire que Soriba disait qu'il n'avait plus de désir en avançant en âge. Ça dépend des personnes. Alors, pourquoi les hommes ont plus recours à des médicaments comme le Viagra en avançant en âge? Eh bien, c'est parce qu'en avançant en âge, on a plus de problèmes de santé. Et du coup, on a plus de problèmes d'érection. Donc, un homme de 70 ans aura plus besoin de prendre de Viagra qu'un homme de 20 ans qui a des artères en pleine santé et qui n'est pas malade. C'est pour ça. Mais il y a des femmes qui, en avançant en âge, ont beaucoup de désirs sexuels. Moi, j'ai un patient, il me disait, mon amie, elle a du mal à marcher, elle a 80 ans, mais à l'horizontale, elle est en pleine forme. J'ai bien aimé cette expression.
Voilà une expression, donc, voyez, encore une fois, assez parlante. Oui. On a un autre message sur le répondeur de Priorité Santé. Il vient du Congo-Brazzaville et c'est Émilie qui est avec nous. On l'écoute tout de suite.
Bonjour à toute l'équipe Priorité Santé. Bonjour docteur Solano, bonjour aux éditeurs. Je m'appelle Émilie, j'ai 44 ans et je vis au Congo-Brazzaville. Depuis mon premier rapport sexuel à l'âge de 16-17 ans environ, je ne ressens pas vraiment de plaisir à l'acte sexuel. J'ai constaté qu'aujourd'hui, même après 44 ans, mariée depuis plus de 15 ans, mère de 3 enfants, je ne ressens toujours pas plus de plaisir. Pourtant, j'aime mon mari et lui aussi m'aime énormément. Et pourtant, il arrive à me satisfaire pendant l'acte sexuel. Il peut passer 30 minutes de négociation, si je peux dire ça comme ça, mais il arrive à me satisfaire. Je tenais à préciser que même avant les préliminaires, je boude, Donc je boude, je ne veux pas, je montre mon mécontentement, penser à l'acte me contrarie énormément. Et puis bon, je finis par céder juste pour faire plaisir à mon mari, qui se plaint d'ailleurs énormément de ce manque de désir en moi. Mais même quand je prends la décision de faire un effort, cela n'est valable malheureusement que durant environ 2-3 jours. Et après, je retombe dans la même situation. Donc pour moi, passer 1-2 mois, voire une année sans rapport sexuel ne dérange pas du tout. Et au final, même après mariage, ben, ma situation n'a pas changé. Je pensais que ça devait changer, mais malheureusement, ça n'a pas changé. Donc je voudrais savoir si je souffre d'un quelconque syndrome que je ne connais pas. S'il y a quelque chose qui ne va pas en moi, je ne sais pas. Ou comment est-ce qu'on appelle les femmes qui vivent ce genre de situation? Merci.
Alors, on n'est pas obligé de mettre une étiquette sur les gens, hein, ce n'est pas nécessaire. Non. Par contre, Émilie, elle semble avoir une panne de désir au long cours.
Elle semble ne pas avoir de désir, mais avoir des orgasmes, si j'ai bien compris, quand elle dit « mon mari me satisfait ». Donc, c'est intéressant parce qu'on voit que ce n'est pas parce qu'on a des orgasmes et du plaisir qu'on a forcément du désir, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient. Ce que j'ai entendu aussi, c'est « mon mari se plaint beaucoup ». Alors, je vais dire aux hommes qui nous écoutent, arrêtez de vous plaindre que votre femme n'a pas de désir parce que c'est ça qui empêche d'avoir du désir. Un mari qui dit « oh, t'es pas marrant, t'as jamais envie tous les jours », si vous voulez, ça vous donne pas envie, il faut se demander « qu'est-ce que je pourrais faire pour donner envie à ma femme ?»
Alors ça me donne une idée parce qu'il y a ce message Facebook d'Éric de Mbougimaï qui dit, alors j'adore l'expression « ma petite amie aime trop les additifs sexuels ». Moi je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire, les additifs sexuels, non pas du tout. En fait, ces additifs sexuels à la compagne d'Éric, c'est des jeux de lumière, des bougies, de la musique, un bouquet de fleurs, bref, ce qu'on appelle du romantisme. Alors peut-être qu'on devrait mettre les deux en connexion, Éric et justement l'époux d'Émilie, pour conseiller peut-être ce genre de choses qui enjolivent le quotidien.
Oui, parce que je peux vous dire, moi je connais des femmes qui disent, par exemple une femme me dit, moi ce qui me donne envie de faire l'amour, c'est que mon mari me dise je t'aime. Or il me dit jamais je t'aime, et quand je lui dis dis-moi que tu m'aimes, il me dit si je t'aimais pas, je t'aurais pas fait le pavillon. Alors ça lui donne pas envie. Une autre qui dit, moi ce qui me donne envie de faire l'amour, c'est les bisous dans le cou, quand mon mari m'embrasse dans le cou. Et vous savez, et il se plaint que j'ai pas de désir, et il me dit oh les bisous dans le cou, les bisous dans le cou, c'est nul. Mais oui, mais je me dis si vous alors justement Eric qui dit ma femme a besoin d'additifs sexuels, mais tant mieux si elle sait ce dont elle a besoin pour avoir du désir, et il faut qu'il l'utilise.
Il dit que ça le déconcentre, hein, quand même. Le bouquet de fleurs le déconcentre.
Voilà, mais je me dis, il serait peut-être encore plus déconcentré si sa femme avait jamais envie.
Ça prouve aussi qu'elle a encore envie d'attention, c'est quelque chose de très important.
Exactement. Et donc, alors quand même, quand on n'a pas du tout de désir, ça peut être le signe qu'on a subi une agression sexuelle, des attouchements, un traumatisme. Et là, il faut se poser cette question et voir s'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. C'est quand même aussi assez fréquent chez les femmes, malheureusement.
On peut en parler, évidemment, avec son médecin. On part pour Kinshasa, on a quelques minutes, mais on va quand même échanger avec Henri. Henri, bonjour.
Bonjour.
Alors Henri, vous, vous êtes marié depuis longtemps avec votre épouse, 9 ans, et les choses ont changé depuis la naissance d'un bébé. Expliquez-nous ce qui s'est passé.
Oui, merci pour la parole. Bonjour docteur.
Bonjour Henri.
C'est juste après l'accouchement, il y a eu un peu de complications. Et quand nous sommes rentrés à la maison, elle a tout perdu comme envie de faire les rapports sexuels. On a essayé de voir le médecin. Et il a dit, bon, ça, je l'ai dit à une perturbation hormonale. Il a prescrit quelques médicaments qu'on a achetés. Elle a pris, mais rien ne change. Et ce qui est encore grave pour moi, c'est que moi, je ne comprends pas. Jusque-là, ça fait maintenant 7 mois et demi, elle n'a plus ses règles, aucune envie. C'était toujours moi qui allais vers elle, mais à un certain moment, j'ai dit arrêter parce que je voyais que ça devait comme un traumatisme de sa part, à tout moment que moi j'exprime ses besoins, et j'ai essayé d'arrêter. Ça fait maintenant un mois et quelques jours que je ne parle pas avec elle si cette situation de rapport sexuel. Et mais on est là, on est à l'aise, il y a une bonne ambiance, mais sauf que dans ce point-là, elle n'a pas l'envie. Même on a parlé. On a
Donc, si on comprend bien, vous avez une bonne entente familiale, une bonne entente de couple, mais il y a ce blocage. J'ai une question, Henri. Vous dites, ça fait 7 mois. J'ai deux petites questions. Est-ce que votre épouse allait encore le bébé?
Oui.
Elle allait encore le bébé. Mmh. Ça, c'était par rapport aux règles. Je pense que vous allez en dire peut-être quelques mots. Ouais. Autre chose, ça fait 7 mois. Elle a eu un accouchement, vous dites, très compliqué. C'est quoi ? Elle a eu des hémorragies ? Elle a eu mal ?
Il y a eu des hémorragies. Ensuite, elle a failli même perdre les connaissances. Heureusement, les médecins étaient là.
Et le bébé, il se porte comment ?
Très bien.
Très bien. Donc ça, au moins, c'est une très bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous pouvez dire, Henri, docteur Solano ?
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est normal de ne pas avoir de règles quand on allaite pendant plusieurs mois. Ensuite, deuxième chose, c'est que il y a beaucoup de femmes qui ne retrouvent pas leur désir 7 mois après l'accouchement. Des fois, il faut 8 mois, 9 mois, 1 an. Je connais même une femme qui me dit, moi, ça revient qu'au bout de 2 ans. J'ai eu 5 enfants. Au bout de 2 ans, je me réveille un matin, je me dis, c'est revenu. Donc, c'est long, mais ça peut arriver. Ensuite, votre femme a beaucoup saigné. Quelquefois, il y a une anémie aussi après un accouchement quand on a beaucoup saigné. Et quand on a beaucoup saigné, on manque de fer. Et ça fatigue énormément. Quand en plus on allaite, que le bébé, on l'allaite la nuit au début, en tout cas peut-être plus maintenant au bout de 7 mois, mais on est très fatigué. Et en plus avec une anémie, on peut être tellement fatigué qu'on n'a plus du tout de désir sexuel. Et ça ressemble presque à une dépression d'ailleurs quand on est très anémié, très fatigué. Donc je pense qu'il faut peut-être voir s'il y a ce genre de problème. Et puis ce qu'il faut que vous fassiez, c'est la câliner, la séduire à nouveau. C'est-à-dire lui faire des compliments, la chouchouter, de manière à ce que ça revienne progressivement et être un peu patient. Parce que ce que j'ai compris, c'est que c'est votre troisième enfant, donc les deux premières grossesses, il n'y a pas eu ça. Peut-être que c'est donc son hémorragie, le fait qu'elle ait une anémie, et peut-être aussi le traumatisme de la naissance. Parce que quand on se dit « mais j'ai failli mourir », ça peut être un choc émotionnel aussi, donc il faut qu'elle surmonte ce choc, vous voyez.
Henri, est-ce qu'elle a fait des contrôles sanguin, votre épouse, pour vérifier justement si oui ou non elle souffrait d'anémie?
Bon, on n'a pas fait ça parce qu'aucun signe n'était présenté. Lorsqu'on s'était rendu chez le médecin, il avait fait tous ses examens. Je ne comprends pas parce que je ne suis pas médecin.
Je comprends.
Mais du moins, ce qu'elle nous avait dit, seulement que c'est dû aux perturbations hormonales. C'est ça, c'est comment j'avais retenu.
Des perturbations hormonales, oui.
Non, mais c'est vrai, ce que vous a dit ce médecin, c'est vrai. Après l'accouchement, il y a des chutes d'hormones très brutales qui font qu'il n'y a pas de désir sexuel. Il y a une sécheresse vaginale pendant au moins 3-4 mois. Ça, c'est sûr. Ça peut durer plus longtemps. Et donc, c'est en partie ça. Mais au bout de 7-8 mois, il y a autre chose quand même aussi. Vous voyez.
Donc peut-être retourner consulter avec votre épouse pour voir justement s'il n'y a pas un véritable épuisement, une véritable fatigue derrière tout ça, et puis aussi lui laisser le temps tout simplement.
Et ce que je peux vous dire, c'est que le traitement de l'anémie, c'est de prendre du fer, et le fer, il y en a dans la viande, le poisson. Le mieux, c'est le boudin noir, parce que c'est fait à base de sang.
Dans les légumineuses aussi.
Oui, mais c'est moins bien absorbé. D'accord. Donc, bon, moi, je suis un peu végétarienne, mais je dis le mieux. Donc, si elle mange, par exemple, si elle mange végétarien, c'est encore plus important de contrôler, parce qu'il y a moins de fer dans l'alimentation végétarienne.
En tout cas, on remercie infiniment cet auditeur pour son appel, Henri de Kinshasa. En deux mots, on a parlé de l'adolescence, on n'a pas eu vraiment le temps, il nous reste 30 secondes, on va à la toute vitesse. Nali Douvira explique que son neveu a un problème d'éjaculation nocturne depuis sa puberté. Qu'est-ce qu'on peut dire à Nali ?
Mais on peut dire simplement que c'est normal qu'il y a des jeunes hommes qui en ont très souvent, d'autres qui en ont presque jamais, voire pas du tout. Ça dépend et c'est quelque chose de normal. C'est signe que ça fonctionne bien et que quand il commencera sa vie sexuelle, tout ira bien.
En tout cas, il n'y a surtout pas à culpabiliser en disant « je suis anormal, il faut que je suis malade, il faut que je consulte ».
Ah non, pas du tout, non. C'est normal. Même si c'est tous les jours ou très souvent par moment, c'est normal.
Et même s'il a une vie sexuelle et que ça continue, là, est-ce que c'est encore normal ?
Ah oui, alors il y a des hommes qui ont une vie sexuelle qui continue à avoir des éjaculations nocturnes. Pas tout le monde, c'est moins fréquent, mais ça peut arriver. Ou des hommes de 40 ans qui, tout d'un coup, n'ont plus de vie de couple parce qu'ils se séparent, ils recommencent à avoir des éjaculations nocturnes, ça arrive.
C'est tout à fait, ça fait partie de la
c'est
vie.
La vie. Hein,
c'est ouais. La vie. Et c'est déjà terminé. Merci infiniment, docteur Solano, pour toutes ces réponses, ces conseils à nos auditeurs. Bien sûr, on se retrouve très, très vite dans l'émission. Et merci à toute l'équipe Ophélie, Lassène, Talimpo, Didier, Bleu. Demain, émission Questions de femmes. Comment éviter le surménage, pression de la famille au travail, stress, charge mentale, trouver du temps pour soi, pour rester en bonne santé. On se dit à demain. D'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui a le bon profil pour vous accompagner dans les moments difficiles. Tout à l'heure.